Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Aujourd'hui, nous amorçons une thématique que nous avons en fait déjà commencé il y a quelque temps en arrière, où nous avons parlé de Madeleine Riffaut, une résistante encore vivante dont l'histoire nous était contée, en particulier par Bertheil. J'ai oublié son acolyte d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez Thierry. Et nous poursuivons avec d'autres résistants aujourd'hui, et ce sera le cas également la semaine prochaine. Est paru récemment un album qui a pour titre « Les Azous, All Too Soon », un récit en trois tomes de Salva Rubio et de Danide, paru chez Glénat. Alors, Salva Rubio, nous le connaissons parce que nous avons déjà lu un certain nombre de ses scénarios, avec des recoupements d'ailleurs que nous allons faire avec l'album paru ici, puisque nous avions lu précédemment Miles et Juliette, la relation entre le fameux trompettiste et Juliette Gréco, mais aussi un album autour de Django Reinhardt qui apparaît dans celui que nous allons partager aujourd'hui.
Oui, c'est un scénariste qui s'est particulièrement bien parlé de la musique. Et c'est vrai que l'allusion à Django Reinhardt est d'autant plus opportune que c'était un peu l'emblème, parmi d'autres, mais l'emblème de la musique appréciée et revendiquée par les Azous dont on va parler.
Alors, qui sont ces fameux Azous?
Alors, c'est un mouvement qui naît à la fin des années 30, un peu avant la guerre, qui trouve son origine dans, alors j'oserais même dire dans une chanson de Cab Calloway. On entend pour la première fois parler de zaz, 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 zaz. J'arrête là parce que le pauvre Cab Calloway, je suis en train de le massacrer, qui apparaît dans cette chanson, mais qui apparaît aussi dans l'attirail vestimentaire de Cab Calloway, la Zoot Suit, d'une extrême élégance, mais exagérée. On a une très belle veste, d'une couleur absolument pétante, mais trop longue, auxquels les Azous français vont ajouter des artifices comme le parapluie qu'on n'ouvre jamais, mais c'est une façon de revendiquer son amour pour l'Angleterre.
Moi, ça me fait penser un peu à Saper comme jamais, mais dans une version particulière. Enfin, je referme la parenthèse.
Très juste.
Pour les plus jeunes d'entre nous, peut-être.
Le mouvement Azous, c'est la revendication d'une indépendance vis-à-vis des parents, à une époque particulièrement lourde du fait de l'actualité, de la grande histoire en marche et en sinistre marche. De ce qui sera la préfiguration de l'occupation. La fin des années 30, il n'y a pas de musique pour les jeunes, il n'y a pas d'espace pour les jeunes. Et les Azous vont le créer avec une coupe de cheveux, une mode vestimentaire, on disait, et surtout l'adoption d'une musique qui s'appelle le swing, dont on a entendu parler à l'époque. Alors, si je dis Charles Trenet, les gens connaissent.
Jusque-là,
ça va. Voilà, c'est quelqu'un qui a cultivé le swing dans ses chansons, surtout les chansons de cette époque. Mais il était accompagné de Johnny S. Et Johnny S. était vraiment le représentant de la musique pour les Azous. Pourquoi cet album nous a intéressés? Parce que c'est un portrait éminemment sympathique et intéressant d'un mouvement culturel, on peut le dire. Mais c'est aussi que ce mouvement va rentrer en collision avec la grande histoire, parce que les Azous vont continuer à prospérer sous l'occupation.
Sous l'occupation et en plus à Paris même. C'est là qu'ils vont se développer. On découvre dans ce premier tome donc des Azous All Too Soon, donc de l'anglais, vous avez compris. On découvre que, en fait, les Azous, ils sont apparus surtout dans les milieux étudiants à Paris.
Il y a différents Azous. Il y a les Azous rouges, les Azous jaunes. On pourrait dire qu'il y a les Azous chics.
Selon les quartiers.
Selon les quartiers, les Azous des Champs-Élysées, les Azous plus prolétaires du quartier latin, les Azous des Gazards, arts et métiers. Vous citiez d'ailleurs à juste titre Boris Vian, qui était un peu en marge du mouvement, mais qui était plutôt représentatif quand même, intellectuellement en tout cas. Moi, ça me laisse rêveur de penser que ce mouvement va perdurer sous l'occupation, parce qu'on imagine, sous l'occupation nazie, sous le régime de Vichy, qui prône la révolution nationale, la jeunesse bien peignée, les valeurs, travail, famille, patrie, le retour vers des sources de la France rurale, de la France traditionnelle, ces énergumènes qui ont les cheveux longs, qui sont habillés n'importe comment, qui se revendiquent d'une culture anglo-saxonne, qui dansent dans les caves, comment est-ce que on a pu le tolérer? Alors, c'était mal connu. Je pense que c'était tellement en décalage avec l'époque que ça laissait les autorités interdites.
Oui, et puis ils étaient malins. Ils collaient des étiquettes sur les vinyles pour éviter que l'on voie qu'il s'agissait de musique venant d'outre-Atlantique.
Oui, très juste. Très juste de citer ces petits arrangements avec l'ennemi. On le disait, l'intérêt de cet album, c'est sous forme de fiction, puisque la fiction, en fait, c'est l'histoire est très simple hein, de cet album. C'est un petit voyou, un voleur de bas étage qui est attrapé par la police. Et au lieu de lui faire une grosse tête, le commissaire va lui dire « J'ai besoin que tu sois mon indic. Je ne sais pas ce que fricote ma fille avec ces individus. Tu vas faire semblant de la draguer et tu vas devenir notre indicateur sur ce mouvement qu'on connaît mal, en fait. » Et lui-même va être notre porte d'entrée pour ce mouvement. Il va infiltrer les Azous et les Azous, il va découvrir des gens qui sont extrêmement sympathiques, vivants, énergiques, très séduisants. Mais pas que. C'est ce qu'on va voir au fil de l'album. Et c'est détaillé dans la postface qui est totalement éclairante. C'est qu'il va y avoir un tournant dans l'histoire de la culture Zazou et de l'histoire, de la sinistre histoire de l'occupation. C'est le 11 novembre 1940, interdit de célébration par les Allemands et par le régime de Vichy. Et pourtant, l'objet d'un rassemblement qui va dépasser en nombre et en intensité ce qu'imaginaient ses organisateurs.
Il semblerait qu'il y ait eu jusqu'à 25 000 personnes.
Ouais, ce qui laisse rêveur, parce que dès le départ, l'occupation, c'était quelque chose de terrible. J'imagine le courage, l'inconscience ou le...
L'élan de jeunesse.
L'élan. Je cherchais un terme exact qui ont fait qu'ils ont osé, avec les conséquences qui sont détaillées dans l'album, le début d'une répression sanglante. Et le début de ce qui sera un tournant dans la résistance, cette résistance entre guillemets intellectuelle des Azous, elle va devenir le terreau d'une résistance, elle va devenir l'exemple de ce que peut être résister, parce que la résistance c'est un mot tiroir. La résistance ça peut être faire dérailler des trains, assassiner un officier allemand, mais ça peut être aussi, ce qui aura beaucoup lieu dans cette période et ce qui n'était pas négligeable, c'était par exemple faire semblant de ne pas comprendre un Allemand qui vous demande son chemin. Faire semblant de ne pas comprendre ce qu'on vous demande au point de vue démarche administrative. Enfin, tout ce qui grippe la machine, distribuer des tracts. Bon. Des petites choses qui sont autant de cailloux glissés dans la chaussure de l'ennemi et puis du gouvernement scélérat de Pétain.
Ce qui fait que Salva Rubio, qui est espagnol, hein, nous parle non pas de résistance avec un grand R, comme on le voit la plupart du temps, mais de résistance au pluriel.
Oui, c'est ce qui est passionnant, ce qui fait tout le sel, je le disais, de cette excellente postface. C'est remettre dans le contexte, parce que plus les événements s'éloignent de nous, plus on a tendance à oublier ce que ça a pu être. Et plus on a tendance à oublier qu'il y a beaucoup de parallèles entre notre époque et l'époque évoquée dans cet album, et l'époque évoquée dans l'album dont nous parlerons la semaine prochaine.
Oui, on aura l'occasion d'y revenir par conséquent. Mais ce que vous dites là, je trouve que c'est tout à fait juste, effectivement, Thierry. Parce que, alors, nous, ici, dans notre pays, on n'est pas confronté aux mêmes situations que celles de 1940, bien sûr, pour le moment. On espère qu'on y échappera. Hein. Mais néanmoins, par rapport à toute une série de thématiques, ça nous fait réfléchir à notre attitude, à notre façon de nous situer par rapport aux différents événements qui nous touchent. Et on s'aperçoit à travers cette histoire des Azous, qui est quand même pas anachronique, mais enfin c'est quand même très surprenant hein, ce qui se vit là. On s'aperçoit qu'en fait, on peut, à travers des attitudes parfois simplement décalées, être justement dans une forme de résistance.
Oui, c'est ce qui nous a inspiré cette thématique sur 3 albums. On parlait de Madame Riffaut, on parle aujourd'hui des Azous, on parlera du réseau du Musée de l'Homme la semaine prochaine. C'est d'une part d'évoquer la figure des premiers résistants, parce que dès le départ, il y a eu des résistants, des actions tout à fait importantes et notables, ou d'apparence, j'allais dire futile, mais déterminante dans l'évolution des mentalités, et montrer que tout ce qui peut faire dérailler cette machine dictatoriale est le bienvenu et que l'histoire s'écrit, vous le disiez, sous forme de résistance ES et pas de résistance E. Il y a mille et une façons de s'opposer à l'arbitraire. C'est délicat d'en parler parce que moi j'en parle, de par mon âge, je ne peux que convoquer les témoignages de mes parents qui ont bien connu cette période-là. Qui ne cesse de me dire, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? Mes parents étaient très jeunes, hein, donc ça aurait été quand même difficile en pratique. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Ben, on pouvait faire ça. C'était difficile, mais c'était possible.
Et d'ailleurs, ce récit, qui est le premier tome, je le rappelle, d'une série de 3, semble nous donner des indices de personnages qui, apparemment, sont plutôt du côté de la collaboration, mais qui, peut-être, sont à leur manière aussi des résistants. On verra dans la suite du récit.
Oui, j'emploie beaucoup de guillemets. En évoquant la collaboration ce qui sera jugé comme une collaboration honteuse et détestable à un certain moment, mais qui pouvait être une façon de faire dérailler la belle machine de l'ennemi. Mais le sujet mériterait une émission entière.
Je m'aperçois, Thierry, qu'on n'a pas parlé du dessin de Daniil.
Oui, emporté par notre passion pour le sujet. C'est un dessin qui colle tellement bien à ce que ça raconte. C'est un dessin hyper dynamique. Ça me fait penser au dessin de comics américain. Ce qui prouve d'ailleurs que c'est totalement raccord avec l'esprit de ce qu'il a raconté là. Il a une énergie pour évoquer les corps en mouvement, les coiffures exubérantes, les costumes ahurissants, les couleurs pétantes. Cette occupation qui est vue en couleur alors qu'elle était si grise, vert de gris. Voilà, c'est le dessin qu'il fallait pour évoquer ces situations. Et c'est une parfaite réussite qu'il faut souligner.
Voilà, d'ailleurs, au niveau des couleurs habituelles pour traiter ce type de période, vous m'avez appris un nouveau mot, Thierry, que j'ai déjà oublié.
Fuligineux.
Fuligineux, oui.
Qui est la noirceur de la suie.
Voilà, eh bien, là, ça ne l'est pas du tout, et c'est très intéressant d'aborder les choses sous cet angle-là. C'est la raison pour laquelle nous vous conseillons Les Azous, All Too Soon, de Salva Rubio et de Daniil, paru aux éditions Glénat pour ce premier tome, et les deux suivants, le seront bien évidemment aussi. Merci Thierry, et à la semaine prochaine, donc, toujours pour parler de résistance.